Cependant, ce mythe daphnéen, bien que fondateur aussi bien du point de vue de l'écriture de Pétrarque que de l'histoire du livre Canzoniere, n'est pas le seul auquel le poète attribue une fonction significative. Si tel n'était pas le cas, pourquoi le mythe de Méduse serait-il présent aux côtés du mythe daphnéen dès la prima raccolta di riferimento, avec l'actuel sonnet 179, dont nous savons qu'il fait partie de la préhistoire du canzoniere, pour reprendre les termes de Marco Sant'Agata, pour figurer finalement seul dans la chanson 366 en tant que dernière référence mythologique du livre dans le dernier texte. Nous verrons comment, même si le nombre d'occurrences est moindre, le mythe méduséen structure le livre canzoniere et en donne des clés d'interprétation, de la même manière que le mythe de Daphné, avec lequel il s'articule de façon explicite ou implicite. Pour cela, nous commencerons par la plus ancienne occurrence connue du mythe de Méduse dans les Fragmenta, le sonnet 179. Ensuite, nous parcourrons et expliquerons quelques moments clés de la fabula du canzoniere, à la lumière évidemment des rapports entre les trois figures que sont Méduse, l'or et le jeu lyrique, pour terminer par le rôle que joue le mythe de Méduse dans l'histoire et la structure du livre canzoniere. La poésie qui inaugure à la fois la présence du mythe de Méduse et la thématique de la pétrification dans la poétique de Pétrarque et les Fragmenta est le sonnet 179, « Geri quando talor me cosa dira », présent dès la prima raccolta di riferimento et donc écrit très probablement avant 1336. Composé en réponse à un sonnet de Geri Gianfigliazzi, il n'est d'abord inséré dans aucun des recueils successifs, mais réapparaît seulement en 1367-68 dans la forma prima la testa. Méduse et son pouvoir pétrifiant y sont explicitement nommés, je cite, « il volto di Medusa che facea marmo diventar la gente » au vers 10 et 11, par comparaison avec le regard de la dame, Ella sdegnando gli occhi gira che di luce privar mia vita spera, au vers 5-6. Dans ce sonnet, Pétrarque associe déjà indirectement Méduse à l'or, identifié au vers 2 par la périphrase La mia dolce nemica. D'autre part, le jeu amant et poète se présente implicitement tel un nouveau percé qui a le courage d'affronter Méduse. Andrei non altramente a veder lei, au vers 9 et 10, lei étant évidemment l'or assimilé à Méduse. Car il conseille à son correspondant Geri Gianfigliazzi de ne pas fuir l'aimé qui éprouve de la colère envers lui. Così dunque fai tu, au vers 12, en réponse à la demande précise de Geri dans son sonnet Messer Francesco qui d'amor sospira, où il demande Se da schiera partirsi de, vers 7-8. Et ce sonnet figure également dans le Codice degli Abbozzi. Effectivement, le jeu amant et poète, grâce à la démonstration de son humilité, sort victorieux de cette bataille de regard, puisqu'il parvient même à transformer sa dame en lui ôtant son sdegno, le dédain qu'elle manifeste à son égard. Cette première occurrence de la métamorphose médusienne dans la poétique de Pétrarque pose les bases lexicales et interprétatives des suivantes, qui conservent bien sûr leurs caractéristiques propres. Le poète a recours au terme spécifique « marmo », qui sera presque systématique par la suite et qui indique la conséquence du pouvoir métamorphosant de Méduse. Il s'agit également de la première des trois seules occurrences du nom de Méduse dans le canzoniere, dans sa synchronie et dans sa diachronie, qui ailleurs se cache sous des périphrases, car l'allusion à la pétrification suffit en général à elle seule pour l'identifier. Par exemple, dans le sonnet 131 au vers 11, « Che fa di marmo chi d'après se riguarda ?» Si dans le sonnet 179, le pouvoir du regard de l'or est seulement potentiellement méduséen et reste à l'état de menace latente, la métamorphose en pierre se concrétise dans d'autres poésies. Le mythe de Méduse est en effet lié à un réseau plus large de métaphores de pétrification à travers les lexèmes marmo, pietra ou petra, sasso, selce, smalto principalement, qui parcourent le canzoniere, à commencer par la canzone della metamorfosi, bien que les pétrifications qu'elle contient ne correspondent pas au mythe de Méduse, mais à ceux de Battus et Écho. Donc je me concentrerai ici sur la pétrification liée à Méduse, et parfois en établissant des liens si nécessaire avec d'autres mythes. Avec la transformation des fragmenta en livres concrétisés par la Redazione Correggio de 1356-58, le mythe de Méduse vient illustrer les variantes narratives de l'histoire d'amour du jeu lyrique pour l'or, avec les oscillations et les oppositions typiquement pétrarquiennes que l'on retrouve dans des poésies écrites à la même époque, ou dans le choix du poète de les juxtaposer lors de l'agencement du livre canzoniere. C'est ainsi qu'à peu de distance temporelle du sonnet 179 que nous venons d'évoquer, probablement en 1337, Pétrarque a adressé à Giovanni Colonna le sonnet 39, Io temo si dei begli occhi l'assalto, qui contient une allusion au mythe méduséen, la première donc dans l'ordre établi de la Redazione Correggio, et dans l'ordre supposé établi de la Redazione Correggio, et des formes qui suivront. Toutefois, la perspective est tout à fait différente du sonnet 179, comme on peut le comprendre dès l'incipit. Tout d'abord, le lexème qui traduit ici le pouvoir pétrifiant de l'or méduse n'est plus marmo, mais le terme dantesque smalto. Je cite les vers 7-8. Per non scontrar chi miei sensi disperga, lassando come suol me freddo smalto. Il s'agit d'une citation des Furies qui, à l'entrée de la cité de Dis, dans l'enfer de Dante, invoque Méduse afin qu'elle neutralise Dante. Venia Medusa, sil farem di smalto. Donc dans le 9e chant de l'enfer, vers 52. Contrairement au sonnet 179, la métamorphose du jeu lyrique est bien effective et même présentée comme une conséquence habituelle de sa rencontre avec l'or, et plus précisément son regard. Loin de l'affronter, dans le sonnet 39, il la craint et la fuit pour éviter la métamorphose. Sur le modèle de la chanson 23, la pétrification est une métamorphose qui semble se reproduire sans cesse, alternant avec des retours à un état normal, allégorisé notamment par l'invention du verbe spetrare dans la chanson 23 ou le sonnet 89, donc, et qui signifie la libération de l'amour. Dans le, et donc cette alternance de métamorphose et de retour à de la libération de l'état de pierre représente allégoriquement l'alternance des états sentimentaux du jeu lyrique en fonction des réactions de l'or à son égard. Deux vers de la chanson 23 illustrent d'ailleurs cette situation. Ma talora humilta spegne disdegno, talor l'infiamma. Les vers 104, 105 de la chanson 23. Et donc, on l'avait vu dans le sonnet 179 où il était parvenu à adoucir le dédain de sa dame par l'humilité. Rappelons que dans les commentaires médiévaux aux métamorphoses, la transformation en pierre par Méduse était entre autres interprétée comme une paralysie due à la terreur. Un champ sémantique que l'on retrouve ici avec temo au vers 1 et paura tanta au vers 13 ou du sonnet 39. Par antithèse avec le sonnet qui le précède, le sonnet 38 adressé à Orso dell'Anguillara, également vers 1337, dans lequel il se lamente en énumérant tous les obstacles dont le voile qui l'empêche de voir les yeux de l'or, le sonnet 39 enrichit donc la thématique des yeux de l'or en lui donnant un arrière-plan mythologique. Pétrarque introduit donc ici une nouveauté, il renouvelle la poésie lyrique et transforme des topoi déjà établis par ses prédécesseurs grâce à la mythologie et à la métamorphose. C'est encore le cas du sonnet 51, qui date selon Sant'Agata de ce qu'il appelle la période avignonnaise, entre 1327 et 1336, et dans lequel cette fois coexistent les mythes de Daphné, au vers 3 et 6, et Méduse, jusqu'à la fin du sonnet, entre les vers 7 et 14, avec toujours comme point de départ le regard dans les deux premiers vers du sonnet. Ici, la potentielle pétrification est présentée comme ce qui aurait soulagé de ses peines amoureuses le jeu amant et poète, qui en vient à envier Atlas, désigné par une périphrase « Per cui io invidia di quel vecchio stanco che fa con le sue spalle ombra marocco » vers 13 et 14, donc du sonnet 51. C'est donc l'insensibilité de la pierre qui est mise en valeur ici, et la métamorphose souhaitée est assimilée à la fin des souffrances amoureuses. « Sarei fuor del grave giogo e aspro » vers 12. Toujours en employant le mode conditionnel, le jeu lyrique donne des exemples de pierres qui auraient pu servir à la réalisation de sa métamorphose en statue. Le diamant, le marbre blanc, le jaspe, des matériaux précieux qui, précise-t-il de façon sarcastique, auraient été admirés par le vulgo avaro et choco au vers 11. En fin de compte, cette pétrification évitée de justesse garantit la survie du poète, mais aussi de l'écriture. Peut-être perçu à un moment donné comme inutile. Non camerce mi valia. donc dans le sonnet 51 au vers 6, car l'identification alors Daphné Laurier, synonyme de production florissante, persiste sans doute depuis la chanson 23. Donc on s'en rappelle de la chanson 23 où après les six métamorphoses, donc la première des six métamorphoses est l'identification du jeu au laurier. Et cette identification du jeu au laurier est également la dernière à persister dans le congedo. Et donc, on peut l'interpréter comme une identification perpétuelle, disons, dans la diachronie des fragmenta du jeu lyrique au laurier, avec toute sa polysémie. Alors, par l'introduction de la mythologie et de la métamorphose, Pétrarque renouvelle encore une fois la poésie lyrique précédente, en particulier ici le style petroso de Dante, qu'on en a parlé tout à l'heure, puisqu'il reprend les mêmes rimes, diaspro et aspro, donc dans le sonnet 51. Déjà chez Guinizelli et Cavalcanti, par exemple, qu'a évoqué hier Natacha Tonelli, l'effet paralysant de la présence de l'être aimé se traduit par la transformation de l'être aimant en statue, exprimée par le recours à des comparants choisis dans le champ sémantique de la pierre ou d'autres matériaux qui ont pour caractéristique la dureté. L'autre versant de ce topos lyrique consiste à comparer la dame à une pierre pour signifier sa dureté ou sa froideur à l'égard de l'amant. Pétrarque amplifie donc le motif de la donna Petra et de la pierre présent dans quelques poésies de la Vita Nova, donc on rappellera les célèbres Così nel mio parlar voglio essere aspro, au vers 2 on peut lire questa bella Petra, ou nella dura pietra che parla e sente come fosse donna, au vers 5-6 de Al poco giorno. L'or est donc tour à tour Petra ou Méduse, et de ce fait, le jeu lyrique est pétrifié, présenté comme pétrifié. Il se représente par la métaphore de la pierre, que l'on retrouve également en dehors de toute allusion implicite ou explicite à Méduse. Par exemple, dans la chanson 129, au vers 50-51, « Pur li medesimo acido, me freddo, pietra morta in pietra viva ». Donc, on peut constater que même lorsque Méduse n'est pas citée explicitement, il y a ces réminiscences médusiennes qui parcourent tous les fragmenta et le canzoniere en tant que livre. Donc, selon un procédé tout pétrarquien, il arrive que ces identifications antithétiques apparaissent dans des poésies qui se succèdent, comme lorsque l'or est Viva Petra dans la chanson 50 au vers 78, puis Méduse dans le sonnet qui suit, et que l'on vient d'invoquer, donc les tercets du sonnet 51. Évoquons le sonnet 131 qui serait peut-être une réponse à Gelidian Filiazzi au même titre que le sonnet 179 avec lequel il partage le thème de l'espoir amoureux. Pétrarque y apporte encore une variation à l'allusion évidente à Méduse, che fa di marmo chi da presso il guarda, au vers 11, puisque l'élément déclencheur de la transformation n'est pas le regard de l'or ici, mais la métonymie lavorio, vers 10, qui représente ses dents. Le pouvoir méduséen de l'or fait donc ici partie intégrante de son portrait, même partiel, contenu dans cette poésie. On peut dire par conséquent que, par sa récurrence et ses variations sur la représentation du lore du jeu et les métaphores du jeu pétrifié, le mythe de Méduse, au même titre que celui de Daphné, fait partie du mito laurano, donc en expression employée notamment par Michelangelo Piccone. Comme nous l'avons vu, cela va au-delà de la seule figure de l'or, de même que la figure du laurier, qui dès les premières poésies dédiées à l'amour pour l'or est à la fois le double du jeu et le double de l'or. Donc dans les premières poésies, donc, je fais référence respectivement à la chanson 23 et au sonnet 34, la pierre est également tantôt le double de l'or, tantôt le double du jeu. La présence du mythe de Méduse dans le dernier texte, la chanson à la Vierge, interroge et incite à une relecture rétrospective du livre Canzoniere en fonction de ce mythe. On vient de constater une présence récurrente du mythe de Méduse dans la Redazione Correggio, où il est essentiellement une projection de l'histoire d'amour, sans être encore à ce stade articulé avec l'aspiration à la mutatio animi, pourtant introduite par cette redazione corregio par opposition à l'identification au mythe. Comme on a pu le remarquer, donc le mythe de Méduse se concentre dans les poésies précédant la Sextine 142 dans le livre, donc qu'il ait été subdivisé ou non en deux parties par Pétrarque, tandis que d'autres mythes sont actifs après la mort de Laure. Mais on constate que la métamorphose en pierre est la seule qui persistera dans les derniers agencements du livre, tandis que celle en laurier persiste sous forme de métaphore, en nombre supérieur à celle de la pierre. Donc dans les poésies qui sont ajoutées à la redazione correggio, la pierre, comme aboutissement d'une transformation, ne désigne plus que l'amant, mais ces images disparaissent après la mort de Laure. Et lorsque le jeu amant est pétrifié, Laure est implicitement méduse, mais comme nous le verrons, peut-être pas jusqu'au bout du livre. Avec la forma prima la testa, on observe une nouvelle phase. C'est elle qui témoigne en effet de la survivance ou du retour de la métamorphose méduséenne. Elle a été enrichie entre 1367 et mai 1368, concomitamment au sonnet 179 évoqué précédemment, du sonnet 197 qui contient la seconde occurrence du nom méduse dans le canzoniere, la troisième et dernière se trouvant dans la chanson 366. Donc le sonnet 179 a été recopié de la main de Pétrarque, comme le sonnet 197, hein, mais le sonnet 179 a été, je le rappelle, recopié de sa main dans l'espace laissé vide par son copiste entre les poésies 178 et 180, donc dans le manuscrit Vaticano Latino 31-95. Et on ne peut donc pas dire que le mythe méduséen se résume à une invention de jeunesse, puisqu'on voit qu'il fait son retour dans les poésies que Pétrarque réinsère lui-même donc à la fin des années 60, avec la forma prima la testa. Pour la première fois depuis le sonnet 51, le sonnet 197 met en présence à la fois le mythe daphnéen et le mythe méduséen. Donc, dans cette série de sonnets que l'on appelle les sonnets de Laura, L'A-U-R-A, donc c'est Laura à la fois dissociée de l'or, quel ver de Lauro, et l'or elle-même qui assume le pouvoir pétrificateur. Donc, je cite les vers 5-6. Pourquoi l'oin me, que nel gran vecchio Mauro, medusa, quando in selce transformollo. L'effet paralysant de Laura Lor, qui assimile l'amant à Atlas, nel gran vecchio Mauro, rappelant quel vecchio stanco du sonnet 51, alors qu'il était d'abord semblable à Apollon, au vers 2, et complété par la nouveauté de l'ombre métamorphique qui fusionne les deux mythes, donc qui fusionne le mythe de Daphné et le mythe de Méduse. L'ombre du laurier est en effet l'aboutissement des multiples transformations qu'offre cette poésie, entre les identités potentielles du jeu, Apollon, Atlas, Celtie, et les identités factuelles de l'or, Laura, Verde Lauro, Medusa, puis un retour à l'état humain avec ses Chiome Bionde au vers 9 qui retiennent l'âme du jeu. Et dans le terce final, l'ombre du laurier provoque une triple métamorphose. Qui est cette fois partielle, car elle ne concerne pas le corps tout entier du jeu lyrique. Donc je cite le dernier tercet, « L'ombra sua sola fa il mio cor un ghiaccio, e di bianca paura il viso tinge, ma gli occhi hanno vertù di farne un marmo. » Donc on retrouve le lexem marmo, également le motif de la peur, donc associé à Méduse et à la pétrification, dit bien qu'à Paola il viso tinge, et ses interprétations médiévales, et une extension également du motif de la pierre avec le lexème ghiaccio, puisqu'on voit qu'il y a des parallèles qu'on peut établir entre le motif de la pierre et ghiaccio, notamment par la froideur de la pierre, qui on a vu qui était associée à l'or, mais aussi donc à l'état amoureux du jeu. Donc, pour finir, je m'attarderai sur la chanson 366 où le mythe est resémantisé comme tant d'autres éléments descriptifs de l'or transposés en un éloge marial. Donc, dans le cas qui nous intéresse, la Vierge Madonna est l'ennemie de Méduse. Medusa è l'error mio, m'han fatto un sasso. Verset 11 de la chanson 366. Mais qui est exactement Méduse ici? Alors, elle a été interprétée presque unanimement comme l'or, mais je proposerai une autre lecture car ce n'est peut-être pas tout à fait, il n'est peut-être pas tout à fait satisfaisant d'y voir uniquement l'or. Donc, Médusa est en effet un mot dissonant dans le contexte de la chanson à la Vierge et dissonant également dans la progression diachronique donc des textes insérés dans les derniers agencements par Pétrarque, dans les derniers agencements du livre Canzoniere. Et c'est évidemment, il est connoté négativement, hein, d'un point de vue moral, et donc cela entre en quelque sorte en conflit avec l'éloge de l'or qui est fait après sa mort et les textes qui constituent la fin du canzoniere. Alors, dans la synchronie telle qu'on la connaît aujourd'hui, évidemment, on a rappelé, il y a la question de l'ordre des dernières poésies qui a été remaniée par Pétrarque, et qui fait que le livre reste ouvert ou non fini, hein, comme le rappelait Michelangelo Piccone. Mais quoi qu'il en soit, donc, même s'ils étaient agencés dans un autre ordre, on constate tout de même que l'or et le laurier sont moralisés après la mort de l'or et dans ce qu'on pourrait appeler la deuxième partie du canzoniere. Et c'est ce motif-là qui persiste, hein, vraiment, dans l'assimilation entre l'or et le laurier. Donc, le fait de voir l'or dans Méduse pourrait impliquer une sorte de responsabilité de l'or, ce qui, on le remarque, entre en conflit avec les autres poésies de cette deuxième partie qui ont été composées à la même époque. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Médusa est l'unique résurgence du mythe de la pétrification après la mort de l'or, ainsi que la trace ultime de la mythologie dans le livre, de son allégorisation morale et même chrétienne, ici, puisqu'elle représente une forme de péché dans ce qu'on peut considérer une endiadyse ou une dithologie. Hein, donc, Médusa est l'error mio, donc ça englobe l'error mio. Donc dans ce procédé rhétorique, alors soit dans la dithologie où les deux termes peuvent être synonymes, donc ici l'erreur pourrait être un synonyme de Médusa, comme Médusa a été interprétée effectivement dans les commentaires médiévaux aux Métamorphoses d'Ovide. Okay, je reviendrai là-dessus. D'autre part, donc dans le procédé rhétorique de l'endiadyse, le premier terme, Médusa, peut expliquer le deuxième métaphoriquement. Donc c'est ce qui peut, ça pourrait être le cas ici. Donc Médusa expliquerait métaphoriquement l'error mio. Donc je faisais référence aux commentateurs médiévaux des Métamorphoses d'Ovide. Donc parmi les différentes interprétations qui d'ailleurs coexistent chez tous les commentateurs, ils présentent à chaque fois plusieurs interprétations de chaque mythe. Des personnages mythologiques et des métamorphoses. Alors, parmi les interprétations de Méduse, on trouve l'oubli. Alors, notamment l'oubli du bien. Chez les mythographes vatican, Jean de Garlande, par exemple, et on voit qu'on peut rapprocher cet oubli du bien du second terme, l'errore, hein, donc l'erreur ou l'errance morale. On trouve aussi une interprétation de Méduse comme péché. Alors dans l'Ovide moralisé, il pourrait s'agir, des fois ce n'est pas très précis, surtout qu'il y a une interprétation donc, des trois sœurs, des trois gorgones, mais alors les péchés évoqués seraient l'orgueil ou la luxure. Et une autre interprétation est la folie, chez Bersuire notamment, qu'il interprète aussi comme le diable ou une femme qui fait perdre la raison à un homme. Donc, la notion de folie, et on peut remarquer qu'il y a un lien avec la chanson 366 et l'Insania du vers 117. Alors, quelles que soient les variantes dans les interprétations, leur dénominateur commun est que la transformation en pierre est expliquée comme une allégorie de l'entrée dans le vice. C'est pourquoi, dans la chanson 366, Méduse n'est donc plus l'or, qui n'est pas responsable des erreurs du jeu et se trouve au ciel, comme le rappelle le sonnet 364, mais aussi le Bucolicum Carmen, où le laurier est monté au ciel. Donc, je proposerais d'attribuer à Méduse le sens d'oubli, donc de garder l'un des sens proposés dans les commentaires médiévaux et dans les explications allégoriques donc des métamorphoses d'Ovide. Donc le sens d'oubli de la préoccupation pour le salut, puisque là aussi c'est une idée qui revient dans le Secretum, par exemple, là, avec Augustinus qui reproche à Pétrarque de s'être oublié soi-même. À part ça, s'étant focalisé sur son amour, donc les doux catènes, la gloire et l'amour. Donc cet oubli de la préoccupation pour le salut provoque l'entrée dans le péché, donc autrement dit la métamorphose négative, l'anticonversion. Le péché serait donc symbolisé par la pierre, ici, donc dans la dernière chanson, qui cristallise les préoccupations terrestres et empêche l'élévation céleste. Comme on le voit, cela rejoint les recherches de Luca Marcos de la bibliothèque Adifebo, qui avait donc souligné les possibles influences de la littérature médiévale, et notamment les commentaires médiévaux sur Pétrarque, l'idée d'un Pétrarque médiéval dont a parlé hier Philippe Guérin. Alors, Pétrarque, on peut supposer également que Pétrarque pense également à la Méduse de l'enfer qui a failli empêcher Dante d'entrer dans la cité de Dis et de poursuivre son voyage. Donc une figure diabolique, peut-être la tentation que Dante personnage a réussi à vaincre grâce à Virgile en ne la regardant pas. Donc par le passé, le jeu des Fragmenta n'avait pas pu résister à la tentation, il avait regardé Méduse en face, mais il n'est pas certain que Manfatum Sasso appartienne vraiment au passé, ni que le jeu soit devenu un percé allégorique qui ne craint plus Méduse, comme dans le sonnet 179. Donc, de la même manière que Virgile et l'ange sont intervenus ensuite pour Dante, la Vierge est celle qui peut secourir le jeu du canzoniere. Donc, on retrouve un lien également avec la valeur métalittéraire qui avait été donnée à la pétrification dans la chanson 23. Donc, on le rappelle, l'arrière-plan mythologique n'était pas Méduse, mais Bacchus et Écho. Donc, d'ailleurs, il y a un lien à distance avec la chanson 23 et la chanson 366, puisque c'est le terme sasso qui est réemployé. Dans la chanson 23, la pétrification était liée à la parole en péché. Voilà, c'était, et d'ailleurs les autres, on peut considérer que les autres métamorphoses aussi de cette chanson 23. Ici, donc, on remarque que la pétrification, donc, et celle effectuée par Batus sur le jeu, était une sorte de punition pour en avoir trop dit, et la métamorphose en pierre était liée donc au mythe d'Écho, hein, où l'or Narcisse donc avait dédaignait le jeu et l'avait transformé donc en pierre, donc le corps d'Écho qui devient pierre et sa voix qui se sépare en quelque sorte pour répéter continuellement le nom de l'aimé. Donc vous voyez, on voit qu'il y a un lien avec la production poétique. Et maintenant, dans la chanson 366, la source donc naissant de la roche hein, est qualifiée désormais de veine, un sasso d'humor vano stillante. Par une allégorie qui, loin de ne viser que les alarmes versées pour l'or, concerne toute son écriture poétique. Au-delà de sa signification morale, la pétrification peut être aussi synonyme d'improductivité et d'inutilité littéraire, comme sa poésie qui jusque-là s'était trompée d'objet. Donc en conclusion, comme le mythe de Daphné et Apollon, on a vu que le mythe de Méduse est polysémique et se rapporte, suivant les variations de la narration poétique, à l'histoire d'amour, à une réflexion métapoétique et à la mutatio animi. Il signifie avant tout l'effet paralysant de l'amour et le dédain de sa dame, de façon secondaire l'impossibilité de parler, d'écrire, de produire de la poésie, pour finir par une relecture de la pétrification comme entrée dans le vice et l'inutilité de la poésie lyrique comparée à la poésie morale et pénitentielle. En citant une dernière fois Méduse, le poète devenu moraliste abandonne définitivement ce qu'elle personnifie, c'est-à-dire la métamorphose par laquelle il avait essayé de montrer la complexité et l'étendue de son amour, mais qui fait perdre le salut pour se donner à la conversion. I cangiati desiri de la chanson 366. Donc la conversion est la seule métamorphose qui permette d'obtenir le salut. Merci.